président de la République dénonce l'ingérence de certains gouvernements dans les affaires relevant de la souveraineté de la RDC, notamment le processus électoral. Joseph Kabila l'a exprimé hier mardi à la tribune de l'ONU lors de la 73e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Il exige aussi le début du retrait de la MONUSCO dont il juge les résultats mitigés sur le plan opérationnel. Quelle lecture faire du discours du chef de l'État? Et pour aborder ce sujet, je reçois Maître Guillaume Mangiolo. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens et aussi communicateur de la majorité présidentielle. Vous avez travaillé comme diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Honorable Mouindo Nzangi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Mouvement Social, parti membre de la plateforme Ensemble pour le Changement. Professeur Alphonse Mahindo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, l'actualité reste marquée par le discours du président de la République hier lors du débat général de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Joseph Kabila confirme la tenue des élections en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain. Il a par ailleurs dénoncé l'ingérence extérieure dans le processus électoral en RDC. Suivez cet extrait que nous vous proposons avec le concours de nos collègues de la Radio des Nations Unies à New York.
Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale.
Voilà, Maître Guillaume Mangiolo, de manière générale, comment avez-vous analysé les différents discours des chefs d'État pour commencer?
Il y a le discours que j'ai retenu en fait, c'est celui de M. Trump. Les intérêts des États-Unis, pas avoir tout autre intérêt, la non-ingérence, la souveraineté des États, et qu'il recommandait aux uns aux autres d'observer cette règle qui est une règle d'or en ce qui concerne la Charte des Nations Unies. Ça me paraît salutaire et ça va dans le sens de ce que nous disons depuis un certain temps en ce qui concerne la RDC. Les certitudes confortables de ceux qui estiment que les activités de la RDC doivent se conjuguer ailleurs doivent s'éteindre au profit de l'arc-en-ciel de la nouvelle alliance internationale qui consiste à faire prévaloir d'abord les intérêts des États. Et les politiques internes ne peuvent admettre aucune interférence. Alors, maintenant, c'est vraiment dans la ligne droite de ce que notre chef de l'État a dit, avec un ton bien affranchi, très apaisé, sans acrimonie, sans animosité.
Un affranchi.
C'est un affranchi. L'affranchi dans les tons et dans l'allure. On n'est pas affranchi du simple fait de brasser du vent, on est affranchi dans les actes qu'on pose.
Affranchi de quoi?
Affranchi de la soumission à l'autorité international sur les matières portant spécialement sur la politique interne, et qui n'appelle pas la moindre discussion à ce niveau-là. C'est de cette sorte-là que lorsque Guterres s'est proposé de venir faire un tour à Kinshasa avant les discours devant la nation, il a dit non. Le fait que vous veniez consiste à pouvoir dire après vous, être interprété comme étant vous nous dictez ce qu'on doit devoir dire. Il y avait à la fois Guterres, il y avait aussi Nikki Haley qui se proposait de venir, y compris les présidents angolais. Donc c'est pour dire qu'effectivement nous passons d'un monde à l'autre. nous revenons de manière tout à fait centralisante à ce qui avait été proposé par Lumumba dans son discours, disant que la politique congolaise se fera en RDC nulle part ailleurs. Bon, maintenant, on peut ne pas être d'accord, parce que le principe ici, c'est de ne pas être d'accord. 1 + 1 = 2, mais le fait que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui conjugue l'identité nationale comme étant sa façon de vivre, qui conjugue le rempart contre la déflagration et la non-soumission, ça ne plaît pas chez nous, chez certains Congolais qui, finalement, ont honte d'être Congolais à part entière, préfèrent plutôt être soumis ou être sous servitude volontaire.
Maître, il y a Julien Bin Kalicia Mourandia qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Du point de vue forme, le président Kabila est dans la norme, mais du point de vue fond, les questions sans réponse subsistent. Peut-on dire qu'il se trouve en position de faiblesse face à la communauté internationale pour rappeler ce point où y a-t-il des contentieux entre lui et cette communauté internationale qui pourtant a aussi contribué à son accession au pouvoir ?»
Et on doit relativiser les choses et contextualiser. On mélange un peu tout. Du point de vue forme, il y a une forme spécifique sur laquelle on table un discours devant les Nations Unies. Quand on est diplomate, quand on a fait la diplomatie, quand on connaît ces choses-là au plan international, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, les fonds consistent notamment à faire l'état des lieux de sa propre situation interne et de faire un relais avec la situation internationale. Alors, ce sont les éléments très simples des rédactions d'un discours devant les Nations Unies. Alors, si monsieur n'a pas compris qu'effectivement, lorsqu'on dit il y a les caractères irréversibles du processus électoral, c'est une activité interne. Il y a interférence extérieure, la non-ingérence qu'il dit, et la souveraineté qui est reprise dans la charte des Nations Unies comme étant les socles de la paix et de la protection des uns des autres. Si on ne peut pas dire ça, c'est qu'on n'a rien compris de tout ça. Et puis, il y a quelque part aussi, lorsque le président de la République rappelle que c'est qu'il y a comme troupe pléthorique des Nations Unies ici en RDC qui ne servent quasiment à rien du tout, dans la mesure où Guterres lui-même, devant l'Union africaine, a estimé que on ne peut pas envoyer des troupes, c'est vrai, il est conscient qu'on ne peut pas envoyer des troupes qui, venant de l'espace hors Union africaine, n'ont pas vocation à venir mourir ici, parce que la décision n'est pas prise par les Nations Unies, mais elle est prise par leurs États. Donc, toutes ces choses-là qui, donc quelque part, le chef d'État a félicité Guterres en disant qu'il a conscience de ça et qu'une réforme est nécessaire par rapport au maintien de la paix sur, notamment l'Afrique, qui est le réceptacle aujourd'hui des contingents les plus importants de la planète. Alors, si quelqu'un n'a pas compris ça, c'est que, sincèrement, on ne parle pas de même chose, de la même construction philosophique et politique d'un texte.
En parlant d'ingérence, en dénonçant l'ingérence dans le processus électoral, à qui le président Kabila s'adresse-t-il particulièrement?
Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une sorte de certitudes anciennes qui reviennent encore en place, cette moisissure de la colonisation qui surgit dans les officines à la fois en RDC et à l'extérieur de la RDC, surtout du côté de l'Europe. C'est connu. Lorsque vous avez des interventions quasi musclées sur l'espace RDC, où vous avez certaines personnalités qui font le tour du monde pour aller solliciter qu'on puisse faire des transitions ou avoir une autre formule qui soit de nature à contredire nos textes, ça s'appelle une ingérence manifeste. Merci. Et déclarée.
Honorable Muindo Nzangi, pour vous aussi, de manière générale, comment avez-vous analysé les différents discours des chefs d'État?
Bon, il y a eu des chefs d'État qui ont parlé. Quand ils parlent devant les Nations Unies, ils disent des choses correctes. Ils disent des choses qui cadrent avec ce qui se passe dans leurs États. Et on a suivi tous le discours de Macron, et quelque part qui défend aussi que le monde est en train de se mondialiser. On n'est pas obligé d'être affirmé sur soi-même. C'est des réponses qu'il a données épais à Trump en lui disant que voilà, si le monde n'était pas mondialisé, les États-Unis n'allaient pas avoir de bases militaires partout au monde, les États-Unis n'allaient pas avoir des relations commerciales aussi privilégiées avec l'ensemble du monde. Mais mon attention était sur le discours de notre chef d'État, puisque voilà, dans ce qu'il a dit, dans l'élément que vous nous avez balancé là, heureusement que vous avez tiré les choses qui nous intéressaient. Il a parlé des choses, mais c'est des contradictions énormes sur base de ce qu'il a déjà dit avant.
Commençons par l'ingérence. Où est la contradiction selon vous?
Je commence par l'ingérence. Au niveau de l'ingérence, d'abord, il n'y a personne qui s'ingère dans les affaires de la République démocratique du Congo. C'est la manière dont les choses se passent en RDC. Une manière cavalière, une manière hors du commun, que tout le monde est obligé finalement de se dire que si on ne suit pas la situation qui se passe en RDC, elle peut avoir des conséquences sur nous-mêmes. Avez-vous déjà vu un pays au monde qui refuse à l'aide de ses fils de revenir dans son pays? Vous êtes Congolais, on dit que vous êtes condamné à la République démocratique du Congo, vous voulez revenir dans votre pays, on ferme toutes les frontières, on ferme les aéroports, des méthodes anciennes pour empêcher un Congolais de venir sur le pays.
Vous faites allusion à Moïse Katumbi.
À Moïse Katumbi, ça veut dire que ce qui se passe ici, c'est hors du commun, et tout le monde s'est dit finalement, il faut qu'on ait un regard. Et d'ailleurs, cette non-ingérence-là, c'est la contradiction avec lui-même. Aujourd'hui, le président dit qu'il ne veut pas l'ingérence, mais bon, on peut se dire qu'il a été élu en 2006 avec les élections financées entièrement par l'extérieur. Nous sommes restés le seul pays au monde où des armées subsistent. Il y a une armée nationale et une armée de la MONUSCO. Je vous dis, je vais y arriver d'ailleurs. C'est une contradiction à l'intérieur. Tous les ouvrages que le chef de l'État a inauguré ces derniers temps, c'est des ouvrages qui ont été malheureusement pour lui construits par l'extérieur. Donc, on ne peut pas parler de non-insérence alors que, en réalité, il y a des problèmes à l'intérieur qu'on ne sait pas résoudre soi-même. Alors, la deuxième chose, il a parlé de la paix. Je crois que pour la première fois, en tout cas, si ce plan-là, il a été honnête, il a dit ceci. Les défis de la sécurité restent cependant entiers dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endossé seulement la RDC, mais d'autres pays de la région. En tout cas, là, il a affirmé que 10 ans après que nous l'ayons élu, 12 ans après, 17 ans après, il n'a pas réussi à rétablir la paix. Alors que c'est le sujet sur lequel il s'est basé pour faire campagne. Et il corrobore les propos qui ont été, on a suivi dans les médias, tenus par le ministre de la Défense, qui a dit que voilà, les FRDC aujourd'hui ne sont pas capables. N'ont pas des unités capables de combattre les IDF à Beni. Ça veut dire que notre gouvernement reconnaît pour la première fois qu'il a échoué en matière de sécurité. Et ça, c'est très important pour nous, puisque...
Pour autant, la MONUSCO doit déjà partir.
Ça ressort dans ce discours, et c'est d'ailleurs ça qui entre en contradiction avec ce que le président Kabila a dit concernant la MONUSCO. Lorsqu'il dit que les forces de la MONUSCO doivent partir, ça entre en contradiction avec ce qu'il a dit. Comment vous dites vous-même que les défis sécuritaires, vous n'avez pas les capacités de faire face. Entre-temps, les gens qui vous viennent en aide vous demandent qu'ils partent. Aujourd'hui, j'étais surpris, puisque le président a dit qu'il demande le départ de la MONUSCO. Les officiers, y compris les gouverneurs de province, les officiels qui sont rendus à Beni aujourd'hui, s'y sont rendus malheureusement avec les hélicoptères de la MONUSCO. C'est la contradiction. Il fallait qu'il donne des instructions à ce gouvernement. Malheureusement, même certaines troupes à Beni aujourd'hui, depuis que la MONUSCO a arrêté de faire les ravitaillements des troupes sur terrain, les militaires sont obligés de faire 100 km avec l'air d'arrêt à pied de Beni à Kamango, puisque la route est fermée. C'est pour vous dire que les défis sont vraiment énormes. La meilleure façon pour le président Joseph Kabila de réaffirmer la souveraineté, c'est qu'il doit donner des moyens à ce gouvernement de résoudre des problèmes. Malheureusement, il a eu tout le temps de le faire et il ne l'a pas fait.
Je vais vous lire un extrait du discours du président de la République, honorable Nzangi. Il dit, je le cite, « La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme, dont il est membre, que dans d'autres fora régionaux et internationaux, et ce, en toute humilité, mais sans complexe et en présent à l'esprit, que le chemin à parcourir reste encore long. » Fin de cycle. La République démocratique du Congo est en train de partager son expérience démocratique.
Mais quelle expérience démocratique? Et c'est là la contradiction même de ce qu'il a dit. Il a dit aujourd'hui devant les Nations Unies qu'il prétend organiser des élections crédibles à la République démocratique du Congo. Un pays qui peut donner des exemples de démocratie, c'est pas un pays qui, après 5 ans de mandat, ne sait pas organiser des élections. Un pays dans lequel des sénateurs peuvent demeurer 12 ans durant des gouverneurs de province sans avoir été, leur mandat n'a pas été renouvelé. Un pays dans lequel toutes les institutions sont illégitimes, y compris lui-même, l'institution président de la République. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas, en matière de démocratie, la République démocratique du Congo, si tous les chefs de l'État n'ont aucune leçon à donner.
Merci. Professeur Alphonse Maindo, pour vous également, de manière générale, comment vous avez suivi les différents discours des chefs d'État?
j'ai suivi différents discours qui sont allés dans divers sens. Hein. On a suivi, par exemple, le discours du président iranien qui s'est montré un peu très battant pour défendre un peu les intérêts de son pays par rapport à l'unilatéralisme américain, qui est resté quand même ouvert pour continuer à discuter. Mais aussi, par exemple, Macron qui a défendu le multilatéralisme pour résoudre les problèmes du monde et Trump qui était dans le protectionnisme américain qui veut rien entendre des autres puissances mondiales. Donc, et à côté de ça, nous avons écouté le discours de notre président qui était un discours très attendu, hein. Et donc, puisqu'on nous a dit que ce serait un grand moment de notre histoire et surtout que on pensait que c'était une espèce de discours d'adieu ou de revoir, parce que il me semble que c'est le dernier discours du président de la République qui ne va pas se représenter aux prochaines élections. Et donc, on pensait vraiment qu'il allait rentrer dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, hein, avec ce discours dans les choses. Mais malheureusement, il semble qu'on a un peu raté cette sortie pour rentrer à la grande porte dans l'histoire. De manière générale, je dirais ça, puisque on se retrouve plutôt dans un discours souverainiste qu'on a attendu rabâcher depuis plusieurs mois maintenant. Et quand on regarde bien l'histoire du monde, les pays qui sont souvent dans les discours souverainistes de ce type sont les pays qui sont en situation de crise, ou des pays qui sont dans une situation très difficile. Et ça rappelle un peu ce que disait Eric Fromm, hein. Quand on est en train de crier quelque chose, on crie, c'est qu'on est en manque de cela, c'est qu'on est, on n'est pas. Voyez-vous, on n'est pas. On s'est rendu compte qu'on n'a plus de souveraineté. En ce moment-là, on crie souveraineté. Et au lieu de crier, il faudrait faire comme ce que le Sénégal nous a dit, hein. Donc le tigre ne chante pas sa tigritude, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Voilà. Et c'est ce que nous devions donc apprendre à pouvoir faire plutôt que de rester encore dans des espèces de gémissements, de pleurnichards ou de complaintes, comme Alfred de Vigny disait, gémir, pleurer, prier est également lâche. Voyez-vous, fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, et puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler.
On professeur, est
en servitude des grandeurs militaires.
Oui. Professeur, vous dites que le président Kabila a raté son discours d'adieu. Que devait-il dire selon vous?
Alors, je pense que si le président devait dire un grand discours d'adieu, ce serait par exemple pour essayer de nous décrire comment l'ordre mondial fonctionne aujourd'hui et que cet ordre mondial-là crée une espèce, crée des inégalités où il y a le règne de la force du plus fort sur le plus faible et tout ça. Donc, décrire ça et faire des propositions de réforme de cet ordre mondial, notamment des Nations Unies, en faisant des propositions concrètes pour réformer cette institution des Nations Unies et pour réformer l'ordre mondial, pour revenir sur un certain nombre de principes fondamentaux qui guident le monde, disons, les relations internationales. Alors là, si vous voulez, il aurait fait un grand discours de ce genre, il serait parti il serait rentré dans les grandes annales dans les grandes annales de grands discours mondiaux. Hein.
Mais professeur, en parlant de la réforme notamment des Nations Unies, le président de la République l'a évoqué quand il dit, ce qui justifie une fois de plus tout l'intérêt des réflexions engagées et partagées autour de la réforme de notre organisation afin d'en assurer un meilleur fonctionnement. Pour autant, l'efficacité de notre organisation dans ce nouveau contexte demeure également tributaire de sa capacité à préserver les idéaux sur lesquels repose l'édifice de l'équilibre mondial. Et il fait également allusion à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU où il demande l'implication, une plus grande implication des pays africains.
Oui, alors donc vous dites ça en deux mots. Alors qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces fonctionnements? Quelles sont les conséquences que ces fonctionnements entraînent? Et qu'est-ce que vous proposez comme une solution efficace? Et les gens qui préparent le discours devraient faire ça. Voyez-vous, et y compris même à dépasser les 15 minutes qui sont allouées, comme on a vu d'autres chefs d'État l'ont fait. Macron est allé à 45 minutes, d'autres, à l'autre, il a pris 15 minutes. Donc, voyez-vous, pour faire une proposition concrète. Parce que là, lorsqu'on on crie à l'ingérence, par exemple, on se complaît à crier à l'ingérence. Or, l'ingérence est guidée par un certain nombre de principes du droit international aujourd'hui, des principes de droit d'ingérence humanitaire, la responsabilité de protéger. mais également par les pactes africains de non-agression qui a été initié par Sassou Nguesso, qui a été adopté par le nombre d'États, et aussi, y compris par la Charte africaine des droits de l'homme, disons la Charte africaine plutôt de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui avait été adoptée en janvier, le 30 janvier 2007, hein, et qui cite, entre autres, qui dit, je cite, si vous prenez l'article 2 de cette charte africaine de la démocratie et de l'homme, qui dit, article 2.3, promouvoir la tenue régulière des élections transparentes, libres, justes, afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitime que le changement démocratique, ainsi que le changement démocratique de gouvernement. Voyez-vous, et donc ça, et là, dans les préambules, on peut lire, soucieux d'enraciner dans le continent une culture d'alternance politique fondée sur la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes. Voyez-vous, donc on est là, dans des dispositions que nous avons adoptées.
Merci, okay. Professeur. Je reviens à vous, Maître Guillaume Mangiolo. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de l'Équateur.
Joël Bongo Longondo, depuis Bolomba à l'Équateur. Les questions qui touchent à la paix et à la sécurité de l'humanité échappent à la seule souveraineté des États. Si les élections en RDC ne sont pas inclusives et apaisées, elles mettront sans doute en jeu la sécurité même des États voisins, et qu'il est fait pour la communauté internationale d'attirer notre attention là-dessus n'a rien à voir avec l'ingérence. Aussi, on ne peut pas demander le retrait même progressif des troupes de la MONUSCO dès lors que l'État congolais a du mal à garantir la sécurité publique et individuelle, encore que cette mission a reçu mandat de se substituer à l'État congolais pour qu'on lui impute les défaillances des services de sécurité. Les derniers massacres de Beni ne permettent pas à la RDC de brandir sa souveraineté parce qu'elle n'est pas à mesure de s'assumer en tant qu'État souverain.
J'ajoute, Maître Mangiolo, cette réaction des Néné Guaterengo de la province du Nord Ubangi, précisément à Gbadolite, qui dit, il y a un proverbe français qui dit, pour que les feux s'allument, il faut que tout le monde y amène ses brindis, c'est-à-dire les ingérences d'autres gouvernements dans le processus électoral sont des contributions positives pour nous acheminer vers les élections démocratiques que les Congolais attendent.
Oui, c'est un peu désolant d'entendre ce que je chante d'entendre. Au fait, Monsieur Alain, il est peut-être recommandé à ce que, si on doit discuter, qu'on discute à visage découvert.
Si vous C'est pour ça que vous êtes là.
Oui, si vous m'opposez deux opposants, et dont un passe sous la coupole de la société civile, ça ne tient pas la route. Dans la mesure où monsieur qui est au téléphone...
Le professeur Mahindo.
Oui, le professeur Mahindo nous dit que pour entrer dans l'histoire, il fallait un discours avec fracas. Et là, vous voulez lui rappeler en disant qu'effectivement, en termes de réformes, il a annoncé notamment la place au Conseil de sécurité des membres de l'Union africaine et tout ça. C'est une démarche qui a été faite par la RDC et certains pays depuis très longtemps. Mais ça l'importe peu. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt voir comment est-ce que il faut défenestrer absolument les discours du chef de l'État. On n'est plus dans une approche d'arbitre, on est dans la posture de Shostakovich. Ici, le chef d'État parlait de l'environnement, de la place qu'occupe l'environnement dans l'espace international. En matière internationale, on voit très bien qu'il y a d'un côté ceux qui polluent et de l'autre côté ceux qui ont juste l'étiquette des poumons de l'humanité qui bénéficient des rien et qui ont des conséquences néfastes. Nous avons le tourbillon ici dont on n'a aucun profit. J'aurais souhaité qu'on puisse en parler. Et alors, il entérine par nous citer un chapelet des textes qui normalement ne sont pas contraignants au niveau africain. J'ai pratiqué ça pendant des années. Tout le monde veut être expert de tout. Il s'avère que dans la CEAC aujourd'hui, en Afrique centrale, le seul pays qui a fait quelques avancées au plan de la démocratie se trouve être la RDC. C'est pas parfait. Je mets tout le monde au défi de me dire s'il y a la démocratie au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville ici. Les gens qui changent de constitution sans problème. Y a-t-il eu ingérence en ce moment-là? Est-ce qu'on a vu débarquer des hordes enragées pour dire « Congo-Brazzaville, si vous changez la constitution, écoutez, la communauté internationale estime qu'il y aura rupture de la paix internationale ». Non, il n'y a pas eu ça. Au Rwanda, pareil. Partout, pareil. Alors, je veux bien qu'on puisse être aussi aigre contre son pays, qu'on puisse accepter l'indignité et la soumission, la servitude volontaire parce qu'on a envie de faire plaisir. Mais un Congolais digne se refuse de ce type de comportement. Le chef d'État a fait son travail. Il n'était pas en train de faire des adieux. Il a servi dans la région, notamment dans la gestion de conflits dans l'Afrique australe, lorsqu'on avait la présidence de la SADC. Et à ce titre, on a négocié au niveau du Zimbabwe, au niveau de Madagascar et du Lesotho. Ce qui fait qu'il a une expertise dans ce domaine-là. De la même façon qu'il a servi lorsqu'il acceptait les belligérants venant du RCD, du MLC, pour composer une structuration sui generis avec un président, quatre vice-présidents pour cette république. Ça fait une expertise qui peut servir dans le futur. Donc il n'est pas dans les adieux. Bon, maintenant, les gens ne sont pas contents avec les règles de la République. J'ai entendu l'honorable dire des choses qui me paraissent assez particulières pour un député national. C'est-à-dire, cette tendance à marcher sur la loi. Son champion se trouve faire la tour du monde avec on ne sait pas quel passeport. Or, son passeport a été retenu à Bruxelles parce que on estimait qu'il était falsifié. Entre guillemets, je suis avocat, je prends les précautions. On ne sait pas comment il fait pour faire le tour du monde, avec quel document. On ne peut pas se promener dans le monde avec une carte de résidence. Il faut un passeport. Lesquels utilise-t-il? Personne n'en parle, c'est quand même étrange. Il quitte la Belgique, où on lui dit que son passeport a été retenu. Il se rend en Afrique du Sud, il se trouve en Zambie, il vient à la frontière. Pourquoi on n'en parle pas? Nous sommes arrivés à l'époque de la loi. Lorsqu'un député national vous dit que nous sommes dans l'illégalité totale et qu'on ne peut pas interpréter justement trois articles de notre Constitution, 73, 103, 105, qui disposent qu'une légitimité acquise à un moment donné continue à produire ses effets jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne dans les mêmes conditions, mêmes mécanismes. Alors, je suis bien mal à l'aise de discuter des mêmes choses pendant des années et des années avec des gens qui sont fermés à la discussion, qui sont dans la belligérance, qui sont belliqueux sans cesse, alors que ce n'est pas nécessaire.
Merci.
Il n'y a pas d'ennemis, il y a d'adversaires et des conceptions politiques et philosophiques.
Merci.
Si on n'arrive pas à se comprendre, c'est que c'est malheureux.
Merci. Honorable Mouindo Nzangui, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'où des États-Unis.
Franck Mazinga, je vis ici aux États-Unis. Hier, j'avais bien suivi le discours de notre président. Je félicitais ses déclarations disant qu'il dénonce toute ingérence du gouvernement étranger dans la politique de notre pays. Et il demande aussi le retrait des forces onusiennes. C'est une bonne chose. Moi, je pense que le Congo doit savoir se prendre en charge en tout problème. Mais si on pense qu'il faut aller ailleurs pour aller trouver solution, je vous assure que c'est une fausse erreur ou conception. Parce que partout, dans tout, il n'y a plus de satisfaction. Même l'ONU a failli dans sa mission.
J'ajoute, honorable Nzangui, cette réaction de Guilin Boutché Kabiri de Goma qui dit, par rapport au départ de la MONUSCO, auquel fait allusion M. Kabila, je pense que cette force aurait dû déjà partir. C'est une mission qui a complètement échoué sur le plan opérationnel. On peut même penser que la présence de la MONUSCO contribue à alimenter l'insécurité dans le pays et à la création des milices. Comment expliquer que les massacres continuent dans le Grand Nord où on tue les gens comme des vaches en présence de ces militaires? Comment expliquer la création de plusieurs milices dans les endroits où sont installés les casques bleus? 20 ans après, la MONUSCO n'a rien fait dans ce pays. Leur présence, c'est un mal. La MONUSCO doit prendre fin.
Oui, je crois que je vais répondre à notre ami des États-Unis que voilà, ça fait longtemps qu'il a été peut-être au pays ici. Cette histoire d'ingérence, c'était discours d'avant-hier, puisqu'effectivement, en matière électorale, on sent qu'il y a une majorité qui s'appelle aujourd'hui FCC, qui ne voudrait pas qu'il y ait de bonnes élections. Et les élections qui sont en train de s'organiser aujourd'hui, c'est des élections où c'est un cas qui choisit des candidats qui doivent l'être pour l'autre camp. Les candidats qui s'estiment qu'ils ne peuvent pas, qui peuvent faire face à leur champion, à leur dauphin, ils l'écartent. Et ils ne prennent que leurs candidats. C'est une élection où on impose un instrument qu'on appelle machine à voter et qui n'est pas prévu ni par la loi ni par la Constitution de la République. Et on veut l'imposer juste pour vouloir tricher. Ce genre de choses, est-ce que vous ne voulez pas que les autres en parlent? Vous voulez qu'on vive dans un pays où effectivement il n'y a que cas qui doit chercher à s'imposer
contre un autre. C'est ça les problèmes. Les problèmes ne se trouvent pas au niveau de qu'est-ce que nous faisons de notre pays. Si c'est vraiment ça la question, tout le monde est d'accord que nous-mêmes nous puissions définir comment nous devons gérer notre pays. Mais lorsqu'il y a des individus ou un groupe d'individus qui prend en otage la République tout entière pour vouloir imposer ses règles en dehors des lois, en dehors de la Constitution, juste pour se maintenir au pouvoir, et le pouvoir pour le pouvoir, puisque madame qui est aux États-Unis ne sait pas qu'ici, il y a des régions comme Beni, comme Boutembo, moi je viens de là, et toutes mes vacances parlementaires, où en fait la vie, au vrai sens du terme, n'existe plus. Déjà, se tuer tous les jours, les routes, même pour traverser, aller quitter Boutembo, aller à Goma, vous devez avoir des escortes, qu'on appelle des convois, sur la route, puisque incapable de sécuriser la population. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de non-ingérence. Alors, j'arrive à cette question de la MONUSCO. Tout le monde, y compris moi-même, je crois que la MONUSCO, si le plan opérationnel, en tout cas les troupes combattantes, c'est vrai qu'il y a un moment où ils ont fait beau travail. Quand il s'agissait de chasser le M23, la MONUSCO a fait un grand travail. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu comment les engins de la MONUSCO faisaient les ravitaillements pour nos militaires, même pour les opérations que le général Bahoum a amenées dans la région de Beni. Mais il faut que nous sachions qu'est-ce qui se passe sur le terrain réellement. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que nos forces armées, alors je ne parle pas de nos forces armées, il y a une véritable volonté du chef de l'État ou du gouvernement de pouvoir briser cette collaboration avec la MONUSCO. C'est ça qui pose problème. Le problème de la collaboration avec la MONUSCO, on sait bien le sentir sur le terrain. S'il y a des règles bien définies pour que nos troupes qui effectivement sont à difficulté, puisque vous avez suivi, vous avez lu si les journaux aujourd'hui ou le ministre de la Défense lui-même reconnaît qu'on n'a pas des unités qui sont capables de combattre sur le terrain. Donc on n'a pas bien formé nos unités, on est incapable de résoudre les problèmes, on a besoin d'une assistance, on ne peut pas s'en passer. C'est ça le problème. Donc les discours souverainistes pour vouloir écraser les Congolais, c'est un discours qui n'a pas de sens. Surtout qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est vrai, mais n'a pas toute la légitimité de pouvoir récuser les forces des Nations Unies, puisqu'il est dans un mandat illégitime. Je crois que le prochain président que nous allons élire va pouvoir faire une évaluation objective de ce qu'a été la collaboration entre les Nations Unies, entre la MONUSCO et le pouvoir qui est à place aujourd'hui, et il va pouvoir attirer les conclusions. Il y a des pays qui avaient la MONUSCO, mais la MONUSCO est partie puisque la paix est revenue. La responsabilité de sécuriser le territoire national, elle revient au président de la République, c'est pas à la MONUSCO.
Honorable, le président Joseph Kabila dit au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la classe politique, traduit à travers un consensus global sur le processus électoral, avec pour objectif ultime l'organisation des élections, j'avais mentionné les progrès réalisés, notamment dans la constitution du fichier électoral, l'imminence de la publication du calendrier électoral. Est-ce qu'il n'a pas raison qu'il y a beaucoup d'avancées quand même sur le plan politique?
Il y a beaucoup d'avancées, mais on va vers une crise.
Laquelle?
Il y a une avancée, la CENI aujourd'hui nous présente des machines qui ne sont pas prévues par la loi, ne veut aucun consensus sur ces machines, alors qu'elles ne sont pas prévues par la loi, je l'ai dit. La CENI aujourd'hui ne convainc personne sur son plan de financement, comment il va obtenir l'argent. Il continue à plaire que l'argent, le gouvernement ne donne pas assez pour la chose. Entre-temps, refuse toute autre assistance extérieure. Aujourd'hui, ne veut pas collaborer avec les autres partenaires juste pour le plan de déploiement. Ils mettent des machines dans les conteneurs pour qu'ils viennent par les eaux. Il n'y a personne qui croit à ces super chéris. On s'est dit, assistons-les. Mais ce qu'on doit retenir, on doit avoir une élection inclusive. C'est clair, une élection crédible, comme il a dit. Une élection crédible veut dire une élection qui sera acceptée par tout le monde. En tout cas, nous l'avons dit.
Merci.
Si on veut nous imposer ces machines, nous allons, et nous l'avons dit de la manière très claire, nous allons appeler au peuple à ne pas accepter cette histoire. Et nous demanderons aux Congolais de venir dans le bureau de vote avec des papiers pour voter le président député national.
Ce sera une élection inédite alors. Le professeur Alphonse Maïndo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Sylvain Luma Kayaka, je vous appelle depuis Kinshasa. Le système de fonctionnement de relations internationales aujourd'hui n'est pas seulement que rapport de force, mais il y a aussi une question des intérêts économiques. La paix et la sécurité internationale qui doivent être préservés. Alors, un État, ou bien un groupe d'États, ou bien une organisation internationale, lorsqu'elle remarque qu'il y a une situation dans un État ou bien dans une région qui aura des répercussions sur la vie ou la sécurité internationale, elle est dénoncée. Il y a une machine à voter qui a été introduite, mais voulant toujours laisser cette machine être utilisée, au moment où une frange de la population n'est pas d'accord, les résultats seront contestés. Certainement, il y aura des violences. Et ces violences-là peuvent engendrer des violences dans la région des Grands Lacs. Voilà c'est pourquoi les organisations internationales sont en train de dénoncer. Les autorités doivent faire un effort à prendre en compte ces observations.
Professeur.
Oui, merci beaucoup de la question. Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit l'avocat là, qui est donc de
Maître Mandjolo, Maître Guillaume Mandjolo.
Maître Mandjolo. Alors, donc, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Voyez-vous, lorsque l'on parle des interventions, des ingérences d'autres pays dans la région, c'est vrai, je peux comprendre que les gens puissent s'inquiéter, moi-même aussi, que le Rwanda, le Burundi ou le Congo-Brazzaville ne sont pas soumis au même canon que la RDC. Alors, mais est-ce que les comparaisons est raison? Non, la comparaison n'est pas raison. Voyez-vous, si vous regardez les ingérences, même les États-Unis ne sont pas à l'abri des ingérences. Vous vous souvenez de l'élection de Donald Trump? La Russie a été accusée d'ingérence dans les affaires intérieures des États-Unis. Mais qu'ont fait les États-Unis par rapport à cette question? Elles ont pris la question à bras-le-corps, c'est ce que je disais. Et donc, il faut prendre la question à bras-le-corps au lieu de gémir et de crier. C'est ça qu'il nous faut faire. Vous, les grandes pensées ne parlent qu'aux esprits réfléchis, mais les grandes actions parlent à toute l'humanité. Il faut donc des actions et non pas de paroles. Voyez-vous, là, je vous cite Théodore Roosevelt et Racine dans Iphigénie. Alors, maintenant, je peux revenir. Le Congo n'est pas le Burundi, le Congo n'est pas le Rwanda, le Congo n'est pas le Congo-Brazzaville. Puisque François Fanon disait déjà que le Congo, c'est comme une gâchette de l'Afrique. Donc, si vous appuyez cette gâchette, ça va entraîner une déflagration sur l'ensemble du continent. Eh bien, cette gâchette-là, il faut appuyer plutôt la gâchette du développement, la gâchette de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance, alors toute l'Afrique s'en portera bien. C'est ce qu'il nous faudrait faire, plutôt que de continuer à faire toutes ces choses qu'on est en train de faire là.
Professeur?
Alors moi, je voudrais, c'est ça l'amour du Congo. Alors, pour revenir à la question qui a été posée par notre compatriote de Kinshasa, évidemment, les Nations Unies, ou si vous voulez, les nations du monde, n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et lorsque un de pays se rend compte qu'il y a des intérêts stratégiques, des intérêts vitaux qui pourraient être menacés, alors ils vont donc, ces pays vont essayer de faire en sorte que leurs intérêts soient garantis. Et donc, en l'occurrence, s'il y a des élections qui ne sont pas organisées de manière correcte au Congo, il va y avoir des contestations, il va y avoir de retour à la guerre où ça va plonger le pays dans le chaos. Or, l'on sait que plusieurs nations ont investi dans ce pays, notamment pour restabiliser le Congo ou stabiliser ce qui a été fait, tout ça. Et donc, on a aussi des enjeux aujourd'hui en termes de matières premières comme le coltan et d'autres qui rentrent dans la haute industrie technologique, et le monde a besoin de ça. Et donc, on ne peut pas permettre que le chaos revienne au Congo.
Professeur, le président de la République n'a-t-il pas raison quand il souligne notamment qu'il est temps que les pays africains, évidemment, cessent de jouer le rôle des réparateurs des dégâts environnementaux causés par les industries du Nord, si en même temps aucune volonté réelle d'allouer des contreparties conséquentes à nos populations ne cristallise des engagements maintes fois souscrits mais jamais tenus, là, et s'exprimer sur l'environnement.
Oui, tout à fait. Je suis vraiment très heureux que vous ayez évoqué cette question de l'environnement. Il a tout à fait raison de dire que on ne peut pas demander aux pays sous-développés, notamment les pays du bassin du Congo, les pays du bassin d'Amazonie, de se priver de leur développement et de travailler pour la communauté internationale qui a détruit ses forêts. Voyez-vous, l'Europe et tout ça a détruit ses forêts, l'Occident. Mais en même temps, si l'on réfléchit bien, protéger les forêts, ce n'est pas dans l'intérêt des Occidentaux. C'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris d'abord à notre propre intérêt. Pourquoi? Puisque nous avons une faible capacité de résilience. Si aujourd'hui il y a des catastrophes graves, notre capacité à pouvoir nous adapter, à pouvoir survivre à ça, est vraiment très limitée. Et vous voyez, par contre, ces pays-là, qui sont les grands pollueurs, ont une plus grande capacité de résilience que nous. Et donc, s'il y a bien quelqu'un qui devrait vraiment veiller à ce qu'il y ait une protection des forêts, c'est nous, bien entendu, les pays qui avons ces forêts-là et qui sommes malheureusement les pays les plus fragiles et qui sont les moins résilients. Et donc, nous devons donc faire ça. Mais nous devons donc continuer à faire des plaidoyers. Et là, j'appuie vraiment l'action du président.
Merci.
Nous devons continuer à faire des plaidoyers et des lobbying pour que ce travail que nous faisons de protection des forêts soit
merci, professeur.
À sa juste valeur.
Maître, quand le président de la République évoque la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, il semble manifester un sentiment d'injustice.
Tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir 1 milliard de personnes qui ne sont pas représentées pour la grande décision au Conseil de sécurité. Vous savez, 3 membres du Conseil de sécurité qui ne sont même pas à la CPI et qui décident qui on peut arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Ce n'est pas juste. Alors, lorsque les gens, par effet de mode ou par passion contemporaine, comme disait Pascal Boniface, sont en train d'entériner des choses qu'ils ne maîtrisent pas, il y a le centre et la périphérie. Est-ce que nous ne sommes la périphérie, les pays de la périphérie? Avons-nous la moindre possibilité d'interférer dans les affaires internes de la France, de la Belgique ou quoi? On n'a pas cette possibilité-là. Or, les grandes guerres mondiales auxquelles on a été associés sont survenues en Europe. Est-ce que ça nous a donné le droit de dire « Attention, les Européens, ne continuez pas à faire ça, puisque demain, on pourrait avoir une guerre qui va nous impliquer. » Jamais. Alors, si vous voulez être dans la servitude volontaire, vous estimez que vous êtes des sous-humains et que chez vous, on peut tout faire. Si vous estimez que la calmie qui a été amenée en RDC, c'est pour exploiter les matières premières, comme M. vient de le dire, pour permettre au monde de pouvoir faire la transition énergétique, notamment avec le cobalt. C'est-à-dire que mettre à disposition nos matières premières au profit de ceux qui exploitent les portables notamment, qui produisent 7 milliards de dollars par an. Est-ce que c'est ça, cette interférence-là dont on parle?
Et en guise de conclusion, maître?
En guise de conclusion, c'est que je suis Nietzschéen, un esprit libre. L'esprit libre a été manifesté par les chefs de l'État, notamment en refusant de recevoir Guterres ici. C'est un acte majeur. En refusant de recevoir Nikki Haley. Parce qu'il y a une décision interne qui doit prendre forme et que personne ne peut interférer.
Merci.
Et à qui on peut considérer comme quoi il aurait influé cette décision-là. Donc, le Congo reste libre et digne.
Merci. Honorable Nzangi, un mot aussi sur l'environnement. Le professeur Maïndo pense que le président de la République a raison, mais nous avons une faible capacité de résilience.
Le professeur a raison, mais moi je voudrais dire une chose. Si nous n'avons pas bénéficié aussi de cette solidarité mondiale autour de la protection de l'environnement, c'est notre faute. Nous avons déjà allé déambuler en Europe pendant des missions où on discute environnement et il ne pose pas réellement, comme le Brésil, la question de se dire comment nous profitons de ces crédits carbone, comment nous profitons de tous ces financements qui sont liés à l'environnement. On ne veut pas, puisqu'il y a des règles, il y a des choses qu'on ne veut pas respecter.
Et en guise de conclusion, sur le plan politique, après un tel discours, comment vous entrevoyez la suite du processus politique?
Non, je crois que le président doit respecter ses engagements. Comme il a dit lui-même qu'il veut des élections crédibles. Crédibles, ça veut dire que c'est des élections acceptées par tous. On veut avoir des gestes de sa part, où, au niveau de la classe politique, il doit obtenir et qu'on s'assure si cette machine a voté. Puisque cette machine-là, elle est nuisible pour la santé politique du pays. Et aussi, il doit faire un effort pour que ses passions personnelles ne puissent pas interférer dans la crédibilité et dans l'inclusivité des élections. On ne peut pas exclure un candidat puisque le président de la République ne le veut pas.
Merci.
Ça, c'est pas normal.
Professeur Alphonse Maïndo, un mot en guise de conclusion.
Alors, si je dois dire un mot en guise de conclusion, il faut donc qu'on arrête un discours souverainiste à multiples standards qui a pour seule visée de maintenir le peuple congolais sous la servitude de pillage ou de violations massives des droits de l'homme et tout ça, manque d'hôpitaux, manque d'éducation, tout ça. Et ça, ce n'est pas un discours souverainiste digne de ce nom.
Merci, messieurs, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Mise en onde, Mimi Kindou, réalisation Guy Maté, supervision Pélékipé Lamondo, coordination et présentation Alain Hirung-Mouchige. Merci de votre attention. Bon suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.
Radio Okapi. Flash Info, Billy Ivan Lutumba.
Merci fidèles auditeurs de Choisir Radio Okapi pour vous.